Actu SF, les podcasts.
Merci d'être là pendant ce qui aurait pu être la pause déjeuner. Donc j'ai l'honneur pour cette table ronde sur le corps de l'économie de recevoir deux très grands noms de la science-fiction mondiale. Alors c'est presque ce qu'il y a de plus difficile pour un modérateur de présenter des gens que tout le monde connaît. Donc, à mon extrême gauche, les Norman Smidrad, qui est peut-être le plus français aujourd'hui des écrivains américains, qui a écrit de la science-fiction depuis toujours, qui est l'auteur de quelques textes majeurs que j'imagine la plupart d'entre vous ont déjà lus. Je ne sais pas si à peine d'évoquer Rêve de fer ou Jack Baron et l'éternité, mais qui est beaucoup d'autres choses, je crois que tu as été éditeur un temps, tu as été à plusieurs reprises président de la SFWA, l'association américaine des auteurs de science-fiction, qui est, contrairement à ce qu'on peut avoir en France, a une très très grande influence, y compris sur l'économie de l'édition et de l'écriture. Tu as même été, je crois, traducteur. Il me semble qu'avoir lu des traductions de toi, anecdotiquement, mais de Roland Wagner.
En français, ça ne marche pas, je parle anglais.
Non.
C'est une chose curieuse parce qu'elle est longtemps qu'il a dans le magazine, le journal, dans un livre de Jules Verne. C'est un chaque année. Et demandait à moi une histoire pour le livre. C'est possible en trancher comme ça. Et j'ai créé une chose. La cuisine humaine. Et l'idée, c'est un livre de cuisine pour des aliens qui sont touristes à la planète.
Sur Terre.
Mais aussi, c'est un vrai cookbook. Mm-hmm. Et il y a quelques mois que je fais le livre dans Amazon. Et ça n'existe pas en français, mais en anglais. Qu'est-ce que c'est le centre de cette idée ici?
Le corps de l'économie, je crois que c'est ce que vous en ferez, mais je crois qu'on peut aussi parler d'économie au sens presque hard de la chose, puisque Gérard Klein, notre autre orateur du jour, est non seulement là aussi... désormais un grand maître de la science-fiction. Je crois que tu as été la dernière convention européenne de science-fiction. T'as élevé à ce grade de grand maître de la science-fiction européenne. Mais c'est aussi, là encore, les gens d'une certaine génération en France ont tous été formés par les préfaces de Gérard Klein dans la grande anthologie de la science-fiction que tu as dirigée pendant des années au Livre de Poche. C'est l'un des auteurs français les plus marquants, là encore, quasiment depuis les années 60, sous différents noms. On parlait à l'instant de Gilles d'Argir, qui est probablement notre auteur de Space Opera ou de Planète Opera, dans lequel on trouve le plus d'innovation, des voiliers solaires jusqu'à la terraformation de Mars, déjà dans les années 60. Donc auteur majeur en France, s'il en est, éditeur majeur, puisque créateur de la prestigieuse collection Ailleurs et Demain, et que tu as dirigé pendant 30 ans, ou sinon 43 ans.
Donc, en principe, d'ailleurs, je dirige toujours, mais je ne publie plus. Bon, c'est une autre histoire.
Donc là encore, un homme orchestre de la science-fiction, mais aussi, je pense, dans une vie antérieure, un économiste. Je pense que tu as été
absolument
conseiller de divers gouvernements.
J'ai travaillé pendant une trentaine d'années pour la Caisse des dépôts et consignations, où parmi mes crimes, j'ai créé le plan d'épargne logement. Enfin, j'ai conçu le plan d'épargne logement. C'est pas moi qui ai signé le décret. Mais j'ai conseillé pendant longtemps la Caisse des dépôts sur le plan de la prospective. Aujourd'hui encore, je participe un peu au principal groupe et à la principale revue de prospective qu'il faut lire, qui s'appelle Futurible, et qui a récemment publié un numéro spécial sur prospective et science-fiction.
Moi, j'aimerais rester un instant sur ce plan d'épargne qui me semble au cœur de notre sujet. On voit souvent l'économie comme quelque chose d'assez aride. Les gens qui n'y connaissent rien voient ça comme, pensent ça souvent comme une collection de chiffres. C'est un peu, je pense, ma vision naïve des choses. J'imagine que quand on parle de plan d'épargne-logement, inévitablement, on parle logement, on parle de façon d'habitation. Comment fait-on ce lien entre les chiffres, l'aridité de l'économie et les besoins du corps, les besoins de l'humain?
Bon, je veux dire que j'appartiens à la dernière génération d'économistes, encore que ça revienne un peu maintenant, non mathématiciens. Disons que j'ai été plus socio-économiste qu'économiste pur. Je ne suis pas un spécialiste des modèles, loin de là, même si on en a fabriqué pour moi et on les a fait tourner pour regarder ce que ça donnait. Mais donc, c'est surtout à l'aspect social et économique des choses et des gens que j'ai travaillé, à propos desquels j'ai travaillé, à la demande de la Caisse des dépôts, sur des sujets extrêmement nombreux. Par exemple, un sujet curieux, c'est en Normandie, à un moment, il y avait une entreprise publique qui était une filiale de la Caisse des dépôts qui avait construit des immeubles de 8 étages et qui n'arrivait à rien vendre au-dessus du 4e. On m'a demandé pourquoi.
Pourquoi ?
Alors, je ne me suis pas déplacé moi-même, mais j'ai envoyé deux chercheurs sur le sujet. Et j'ai compris ceci, c'est que la plupart des ménages qui achetaient ces appartements, appartenant aux classes intermédiaires, étaient jeunes et avaient ou voulaient avoir des enfants. Les mères voulaient pouvoir surveiller de leur fenêtre les enfants, et au-dessus du 4e, ça ne marchait plus. Donc j'aurais conseillé d'essayer de vendre aux personnes âgées à condition que les ascenseurs fonctionnent au-dessus du 4e étage. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais enfin, la réponse était, je crois, bonne.
Tu disais que tu étais d'une génération d'économistes pré-modélisation, en quelque sorte. Est-ce que ton savoir-faire d'écrivain, ta connaissance, ta capacité à jouer avec les spéculations, l'imaginaire, informe aussi ta réflexion d'économiste?
Oui, ça a dû jouer, mais enfin, c'est pas exactement... Non, pas vraiment. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Quand on m'a demandé d'étudier la possibilité du plan d'épargne-logement, c'était en 1969, si je me souviens bien. C'est parce qu'il y avait un gros problème qui était lié à l'inflation. Il n'y en a plus aujourd'hui. Il y avait un autre gros problème qui était lié, alors là, ça existe toujours, au retard des promoteurs publics et privés à construire. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer d'éviter les inconvénients de l'inflation pour une partie de l'épargne au moins, et d'autre part, décider les ménages à retarder leurs achats d'appartements pour que les promoteurs aient le temps de construire. Donc j'ai inventé ce plan qui existe toujours, mais qui n'a plus absolument aucune espèce de sens, et dont je serai le premier à recommander au gouvernement de le supprimer d'une manière ou d'une autre, parce que c'est devenu un instrument de placement, parce que le taux est relativement avantageux, mais en même temps, le taux des prêts est très supérieur à celui du marché. Alors, ça n'a plus absolument aucun sens.
Voilà. Je crois que c'est aussi la question de la langue. Qu'est-ce qui est possible et pas. Ça, c'est une autre chose dans le livre, le cookbook que j'ai écrit. Par exemple, c'est nécessaire pour toute personne. Elle fait maïs et riz pour les Mexicains. En Asie, c'est pour la plupart riz et quelque chose. C'est une combination de les choses nécessaires pour un vrai. Et aussi, ça c'est la chose plus immédiate. De l'évolution d'une culture. Ça, c'est la première chose, c'est de manger quelque chose qui marche. C'est ça. Sans ça, vous n'avez rien de tout. Et seulement, par exemple, en chinois, en autre part de l'Asie, c'est pas. L'ability to manger lactose. So, fromage, oh, ça, c'est dégueulasse. Parce qu'elle mange un ancien ou autre chose qui est dégueulasse pour nous. Parce que c'est un balance dans le. C'est combien de. 4 ou 6. Protéines, c'est nécessaire pour tout l'homme humain. Et ce n'est pas beaucoup de choses qui avant de le deux. Sur la question de la balance de maize et peut-être meat, ou pour maize et riz, ou pour légumes, et tout ça. Et ça, c'est le basement, la chose plus. C'est une chose qui est plus longue comme l'évolution de Homo sapiens. C'est nécessaire. Et après ça, c'est autre chose, question par classe. Par classe, si vous êtes, qu'est-ce que c'est. La classe qui est possible avec le fric et puis autre personne, rien de tout. Maintenant, you want to switch? You want me to switch to English or
something? Yeah, some people ask for English.
Okay, yeah. I have another problem here. What I'm saying is this is the really bottom economic base of culture. Of all cultures, because if you don't have enough food to eat, you don't have a culture. But in certain parts of the world, certain things will grow and other things won't. The Eskimos, for example, and Inuit, they can live just by eating seal blubber and stuff like that without any vegetables. You try that here, and it won't work. You'll get very sick. So I think it's really true that that's the base of all economies. Yeah. And because it's the base of all cultural economies, it's the basis of what culture survives. And nothing can be more important.
Je suis presque surpris de t'entendre défendre une position aussi raisonnable et pragmatique de l'économie. Dans tes romans, quand les plus militants en tout cas, tu es souvent dans la spéculation relativement extrême. Je pense à Jack Baron, par exemple, où tu nous développes toute une économie de l'immortalité qui inclut bien sûr de la politique, bien sûr de la morale. C'est un Norman Spinrad très sage qu'on a aujourd'hui.
Well, I also like to cook. I cook a lot of things from different cultures. Chinese, Mexican, stuff like that. But it's also a question of class, economic class. In a lot of places, meat is much more expensive than some maize and rice or maize and beans. So, and I guess over time, the genomes of people that can actually thrive off what is growing and what can be found where they live. One good example is soccer, is football. Yep. In Northern Europe, it's much easier to make beer. Uh-huh. And you know what happens in English and Scottish games? Yep. Beer. In France, Italy, something like that, it's wine. And these are two very different cultures. So I think finally, the other thing I want to say is that just reading in Nature that we are destroying the biosphere by putting too much land for growing animals. And in the end, it's not going to work, and people are going to have to become vegetarians of some kind or another. At least what they say. I don't enjoy that idea at all, but It may be possible. It may be necessary.
Gérard, est-ce que ce lien entre microéconomie et macroéconomie est quelque chose de majeur en économie, le passage de la des problèmes individuels de nourriture et de logement à l'économie?
Oui, oui, non, mais c'est évidemment un problème central. D'ailleurs, le plan d'épargne logement dont je parlais tout à l'heure, encore une fois, est totalement obsolète. On est un bon exemple. Il y a une politique macroéconomique, d'une part, et d'autre part, elle repose sur les besoins des gens. Manger, loger. Loger, c'est extrêmement important, donner du travail et distraire. Mais alors, moi, j'aimerais assez qu'on reparte du roman de Wells, dont il était question dans la présentation de cette table ronde. C'est-à-dire que dans la machine à explorer le temps, dans un avenir lointain, il existe en quelque sorte deux groupes sociaux qui se sont deux classes sociales, qui sont devenues deux classes biologiques, deux espèces différentes, les Eloïs et les Morlocks. Et les Morlocks se nourrissent en mangeant les Eloïs. Or, ce qui est intéressant, c'est que chez Wells, il y a un retournement des situations sociales. Les Eloïs sont la classe dominante. La classe ouest qui est devenue oisive au sens de Veblen, du sociologue Veblen. Et cette classe oisive est devenue, qui est très belle, qui est très gentille, etc., est devenue la source de nourriture, peut-être pas unique, mais en tout cas principale, des Morlocks, qui sont les prolétaires, enfin les travailleurs qui travaillent essentiellement sous terre. Alors, est-ce qu'une telle évolution est possible? Je crois que cette table ronde pourrait nous poser la question de savoir si, en effet, il peut y avoir apparition de nouvelles espèces à partir de l'espèce humaine en fonction des différenciations sociales, en fonction de ce qu'on peut appeler classe sociale, même si je récuse un peu le terme.
Et est-ce que l'économie va jusqu'à prendre en compte ce genre d'évolution à très très long terme ?
Non. Un des problèmes de l'économie, la prospective pourrait le faire, mais un des problèmes de l'économie, c'est que, et en particulier des gouvernements, c'est qu'ils vont rarement au-delà de 5 ans à 10 ans dans l'avenir. Donc, ils n'ont, non. Dans le domaine de la prospective, on pourrait l'envisager. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. C'est une évolution qui peut être à très très long terme. Mais qui se pose aujourd'hui, c'est de ça que je souhaitais parler, en termes nouveaux, parce que le progrès technologique, en particulier en matière de biologie, permet d'envisager plusieurs choses très différentes, d'allonger considérablement la vie et de modifier le génome humain. Et donc là, peut-être, de créer des humains d'un modèle un peu différent. Alors je vous dirai tout de suite que je récuse le transhumanisme, mais il y a toutes les chances. Et il y a un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre de réflexions qui sont conduites là-dessus pour qu'effectivement des modifications se produisent. À mes yeux, je conclurai provisoirement là-dessus, la principale, c'est l'allongement de la vie en très bonne santé. Je suis persuadé que la majorité d'entre vous qui êtes jeunes, vous aurez de bonnes chances de vivre jusqu'à 120 ou 130 ans en bonne santé. Malheureusement pour moi, j'ai 80 ans passés, je suis un peu trop vieux pour espérer ça. Et pourtant, j'ai du boulot pour jusque-là.
Norman, je te voyais hocher la tête. Tu as la même lecture de l'œuvre de Wells avec ce twist entre la classe prolétaire devenant dominante et mangeant la classe aisée.
Well, yeah, but you know, only over the past decade or so has it been realized that there are as many as 8 different hominins before Homo sapiens, or at the same time.
Keep the
8, something like that, and they had contact with each other. And for some reason, Homo sapiens is the only one that survived, but not exactly, because there's a certain amount of Neanderthal gene in Europeans, not in Africans. So maybe one of the questions is, why did Homo sapiens survive where maybe 6 or 7 other species who actually had tools, had art, actually had music. You can't prove whether they had a language or not, but it's difficult to imagine a tool-making creature that made tools and did art and had no language. This does not seem to be likely. So it may be that the species that was more of a omnivore than the ones that were more determined by something narrower. It may be why the Ice Age in Northern Europe was part of why Homo sapiens survived and the Neanderthals didn't. This gets politically a little dicey here because it, you know, there's a racist element. That's science. I mean, it's you know, there are different makeups of Homo sapiens, Neanderthal sapiens DNA. And I used to say, well, the modern humans, Homo sapiens wiped them out or something like that because we were smarter than they were, stuff like that. But maybe not. Maybe Homo sapiens was just more adaptable to more complicated and changing environments, food-wise.
Bon, on est en train de parler du passé, d'un passé un peu lointain. Les dinosaures n'ont pas eu des difficultés avec l'âge glaciaire. Ils étaient morts depuis 65 millions d'années parce qu'ils ont pris un gros caillou sur la tête. Mais en ce qui concerne les espèces humaines, d'ailleurs, qui sont classées dans Homo sapiens, pas sapiens sapiens, mais Homo sapiens, comme les Néandertaliens, ils ont existé pendant plus de 600 000 ans, ce qui est quand même pas mal. Et la raison de savoir pourquoi, et puis les quelques autres ont été éradiqués par l'Homo sapiens sapiens ici présent, à mon sentiment, c'est pour une raison très simple, c'est le plus féroce. L'Homo sapiens sapiens, celui que nous sommes, est la seule espèce qui viole, qui massacre en toute tranquillité et satisfaction. Il n'y a pratiquement pas d'autres espèces vivantes qui le fassent. Alors, en ce qui concerne les Néandertaliens, les Denisoviens et d'autres espèces, nous ne savons pas du tout comment ils se comportaient, mais je crois encore une fois que le sapiens sapiens les a éradiqués, soit parce qu'il il était sur le territoire, enfin il prenait les ressources, enfin, etc., mais soit parce qu'il les a purement et simplement massacrés, comme il continue à se massacrer avec allégresse chaque fois qu'il en a l'occasion.
Est-ce qu'il y a une économie de la férocité? Est-ce que c'est un argument purement moral ou est-ce qu'on pourrait traiter ça d'un point de vue plus économique?
Oui, c'est pas mon champ, mais la guerre est clairement une économie de la férocité.
What's the question? Well, people ate things in the Paris Commune. They ate everything. They ate the birds. They ate the animals out of the zoos. They ate rats. They ate it, well, you know, because they had to. And there have been whole wars fought about salt. Salt, sel. A very important part of a diet, which some places just didn't have. And there's a city down in the Med, I can't remember the name of it, an old medieval city that made their entire import and export economy on the salt they were making from seawater, because it was vital. So. I don't know. It's, but there's also class, and there's also peculiar things. Like the Japanese like to eat things that are dangerous. They'll eat things that are dangerous because they're dangerous. Fugu, which is a fish that if it's done perfectly, is very, you know, sashimi. If it's done perfectly, it's the best sashimi. If it's not perfect, it kills you. And they like things like that. That's part of their culture. You go to Mexico, there's always a contest who will eat the hottest pepper. So I think there's really a feedback relationship between food and culture. I think it's the most basic, difference between some cultures in a way. More than music, more than art, more than literature, and what you eat. And also, in more complex civilization, there's also class, economic class, that people who have less money tend to eat less protein. And that affects, in a long range, evolution too. The question is, and maybe Gerard has the answer, I don't, how long does it take for something like that to be evolved into the genome? It may be less than one thinks. You just think, well, it'll take, 100,000 years. Maybe not. Maybe not.
Job.
Moi, inversement, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette table ronde plutôt aux possibilités que la technologie, en particulier les technologies biologiques, apportent en matière de transformation de l'espèce humaine et les risques et les avantages que ça représente.
Bah, allons-y donc.
Bon, alors je pense qu'on peut diviser en deux grandes catégories ce qui peut arriver. La première, je parlais de l'allongement de la vie tout à l'heure, il est imaginable, on arrive à peu près à doubler la vie de souris, de mouches, même aller au-delà. Il est imaginable qu'on mette au point, dans un avenir assez proche, je dirais dans les 10 à 30 ans qui viennent, des suppléments alimentaires, des produits qui permettent d'allonger la vie en bonne santé jusqu'à 120, 130 ans, peut-être au-delà. Mais enfin, bon. La question est de savoir si cette technologie particulière sera réservée à une classe richissime, dominante, ou bien si elle sera répandue au moins dans les pays dits développés. Nous avons un précédent, ça s'appelle la pilule contraceptive. La pilule contraceptive n'est pas un produit cher et ce n'est pas un produit qui a été réservé à une classe dominante. C'est un produit qui est largement répandu dans toutes les sociétés industrialisées. Évidemment, en Afrique, dans une moindre mesure en Amérique latine, c'est plus compliqué. Il y a, s'y opposent des raisons économiques, mais surtout des raisons religieuses et culturelles. Enfin, nous avons là un produit de haute technologie qui a été développé dans les années 1950, donc assez récemment, et qui a quand même changé considérablement les façons de vivre, les mœurs, les habitudes de l'humanité, en particulier d'une moitié de l'humanité. Alors, d'autre part, est-ce que des modifications génétiques complexes ne seront pas réservées à une élite capable de se les offrir dans l'espoir de devenir plus intelligente, de vivre plus longtemps, de vivre en meilleure santé, enfin, etc. C'est là que la question me paraît se poser fondamentalement. C'est la distinction entre les progrès qui seront largement répandus, et je pense qu'il y en aura, notamment en ce qui concerne l'allongement de la vie, mais bien d'autres domaines, et les progrès qui pourraient, pour l'instant ce n'est pas vraiment le cas, ou ce n'est pas le cas du tout, être réservés à une élite richissime.
Alors, on revient à la question de la modélisation que tu évoquais tout à l'heure. Si on considère, pour un auteur de science-fiction, effectivement, envisager des vies très allongées, voire l'éternité, on peut toujours jouer avec des spéculations, mais est-ce qu'un économiste est capable de prévoir de façon rigoureuse les conséquences que ça pourrait avoir, les directions politiques et économiques qu'il faudrait prendre? J'imagine, par exemple, qu'un allongement de la vie à 120 ou 130 ans changerait complètement la donne en matière de retraite.
Oui, alors en matière de retraite, ça changerait complètement la vie. En revanche, en matière de démographie, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'étude qui a été faite. Bon, j'ai fait quelques petites explorations. En ce qui concerne l'Europe et probablement les États-Unis, en admettant que 30% de la population vive jusqu'à 120 ou 130 ans, en réalité, ça ne changerait pas grand-chose. Ce sont des phénomènes qui sont très inférieurs à ceux de la démographie naturelle d'une part, qui, nous n'oublions pas, en Europe est en déclin. Hein, tous les pays de l'Est, les anciens pays de l'Est sont en déclin. La Russie est en déclin démographique prononcé. Donc, s'ils se mettaient à vivre plus longtemps, c'est-à-dire plus de 60 ans à peu près pour les mâles russes, ça ne changerait pas grand-chose. Il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. On saurait faire. Le problème démographique qui a été débattu dans une table ronde à côté, central, et il n'a rien à voir avec l'allongement de la vie, c'est celui de l'Afrique. Pays comme le Nigeria est passé d'une vingtaine de millions d'habitants au moins au moment de son indépendance à plus de 40 millions aujourd'hui. On annonce plus de 200 millions pour la fin du siècle. Donc là, il y a un véritable problème qui n'a rien à voir avec l'allongement de la vie, parce que leur espérance de vie ne doit pas dépasser les 60-70 ans.
Well, I mean, sooner or later, and more sooner than later, they're going to be able to synthesize anything from basic chemicals. It's going to happen. It's happening. And some of this stuff is awful. But you can synthesize anything. They're talking about now the planet can't support, the biosphere can't support what we're doing now with meat. It can't support it. But if you can make meat without animals, the economic question changes. Whether the culinary, but why not? I mean, if you can synthesize, they're starting to actually do this. Not yet, and maybe it's not very good meat, but I think that this is going to happen. Not everybody is going to want to eat this stuff, at least at first. But when large herds of cattle and things like that are biologically untenable, there's going to be more of that. And you see a lot of it today. There's a thing, this is not quite that, but there's a thing in the States called pink slime. And what they do is they take bits and pieces from all kinds of, animals that they don't use that, but they put it in a tree chipper and grind it all together, and they get something called, what they call pink slime. Pink slime they put in hamburgers, they put in hot dogs. There's only a matter of time before you have pure pink slime pastas. You have something that's more sophisticated. And beyond that, at least potentially, there's no reason why you couldn't make really good tasting food that you can't get from an animal. You can create, I think I wrote this somewhere, you can create what you want. And it doesn't have to be the most expensive stuff either. Although at what level it would be, it'd be like an art. The art of creating artificial foods like that. I'm not saying I like this idea, but I think it's inevitable. At least from what I'm reading now, the way we're eating as a species on this planet, ultimately is not tenable. With the emphasis on pigs and cows and stuff like that, it can't last indefinitely.
Non, enfin, je voudrais quand même dire ceci, c'est que pour autant que je sache, évidemment, je ne sais pas tout, on ne me dit pas tout, aucun économiste sérieux ne considère l'alimentation de l'humanité à vue humaine, c'est-à-dire 20 ou 30 ans, comme un problème. crois. On a toujours trouvé des solutions, on saura trouver des solutions. Le problème n'est pas celui de l'alimentation, le problème est celui de sa qualité éventuellement, le problème est celui de sa répartition, ça c'est un autre problème. Mais on sait faire, on sait produire. Et je suis d'accord avec Norman, on produira certainement de la viande semi-artificielle, soit par culture de cellules, soit par d'autres voies. Enfin, ce n'est pas la faim dans le monde n'est pas ou n'est plus un problème qui intéresse les économistes.
Tu parlais de qualité. On a tendance à associer la production de masse, en particulier de nourriture, avec une très mauvaise qualité, voire un très mauvais goût. Est-ce qu'on peut imaginer de la grande qualité de masse pour tout le monde ?
Oui, je pense. C'est pas... ça coûte. Mais enfin, je vois pas de problème fondamental là. Le problème, c'est plutôt, mais c'est pas vraiment le sujet, dans l'alimentation très transformée, la quantité de produits éventuellement nocifs qui se trouvent rajoutés, les colorants, les conservateurs, les trucs et les machins. Enfin, il y a toutes sortes de publications et de débats là-dessus. Enfin, globalement, encore une fois, produire de l'alimentation en quantité suffisante et de bonne qualité, on sait faire ou on est susceptible de savoir faire. C'est pas là qu'est le problème. Je vais plutôt revenir sur, si ça intéresse le public et l'animateur Happy Norman, revenir sur les possibilités de transformation volontaire de l'espèce ou les changements apportés à sa longévité, j'y reviens, enfin, et à d'autres de ses caractéristiques. Voilà. À l'heure actuelle, il s'est quand même produit au cours des 100 ou 200 dernières années un phénomène considérable qui est l'allongement naturel de la vie. Aujourd'hui, en Europe, en tout cas en Europe occidentale, l'espérance de vie est de l'ordre de 80 ans, hein, 85 environ pour les femmes, un peu plus de 80 ans pour les hommes. Il faut quand même bien voir que ce n'était pas le cas avant le 20e siècle, ni même avant le 19e. Mais il y avait déjà des gens qui vivaient très longtemps. Fontenelle, qui a écrit ce fameux essai sur la pluralité des mondes, a vécu 101 ans. Enfin, donc, alors la limite naturelle de la vie humaine est de l'ordre comprise entre 110 et 120. Il y a très peu de gens qui atteignent cet âge-là. En tout cas, elle est supérieure, la limite naturelle, elle est supérieure pour des individus bien dotés génétiquement à 100 ans. Ce que je pense, c'est que cette limite naturelle va être remplacée par une limite artificielle avec les procédés adéquats, comme on sait faire donc pour les mouches, les souris et un certain nombre d'autres bestioles. Mais d'autre part, il y a cette possibilité de transformation, de modification du génome, soit au niveau individuel, on le fait déjà pour le traitement de certaines maladies, soit transformation du génome transmissible. Ça, en principe, c'est interdit, ou en tout cas, ça n'est pas pratiqué à l'heure actuelle de façon systématique et légale. Mais là, il peut y avoir, c'est concevable, puisqu'on le fait sur des espèces animales, là, il peut y avoir des possibilités à la fois intéressantes et inquiétantes.
Well, you know, not that long ago, in historical terms, there was a lot of famines in India. Basically because they weren't growing enough rice to feed themselves. So the Americans, at first, were exporting rice, really not making any money to it because as a surplus. Then they discovered how to make something called green rice, super rice, that made it easier to grow more rice. But more recently, it's realized, they could grow more rice, but they were dependent on artificial fertilizers, particularly from Monsanto. So there was a price to pay for that too. It's a very complicated question. Was that what they really wanted to have happen, or was it just something that did happen? It's hard to tell. It's hard to tell. But they don't have those famines there anymore. The Chinese don't have those famines either anymore. So that's good. But it turns out that maybe the stuff they're using is slowly destroying the soil, and in the end, makes the food expensive again, and the large populations that have grown on the green rice, again, don't have enough food.
Et le problème central pour les cultures, en particulier du riz et du blé, enfin, etc., c'est l'eau. La terre, on s'en va toujours faire, à mon sentiment. Enfin, je ne suis pas agronomiste, donc je ne devrais pas m'exprimer là-dessus. Mais le problème de l'eau est considérable, parce qu'il faut des quantités énormes d'eau pour produire ces céréales, sans même parler des quantités colossales d'eau qu'il faut pour produire les animaux que nous mangeons, qui mangent une partie de ces céréales, enfin, ou d'autres produits végétaux. Donc, alors, il y a des contrées, il y a des pays, des continents entiers où le problème de l'eau ne se pose pas de façon aiguë. En revanche, il se pose de façon aiguë en Afrique. Il risque de se poser de façon aiguë en Inde et il se pose déjà de façon aiguë dans certaines parties de la Chine. Alors, ça, si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez rien cultiver.
Norman évoquait des modifications du jeu par un novum presque science-fictionnel, l'invention d'un nouveau type de riz. Là, tu sembles évoquer plutôt de très grands projets d'adduction d'eau, de création de grands barrages. Pour toi, est-ce que l'économie de cette reconstruction, de cette réinvention du génome humain pour réinventer l'espèce humaine est une affaire de très grands projets à l'échelle de l'espèce humaine, ou est-ce que c'est une succession de petits pas qu'on peut...
Well, another example of this was the NAFTA, the pact between Mexico, Canada and the United States, sort of like a kind of EU, but not really. Seemed going to be pretty good for the Mexicans, that we'd get some more jobs, the Americans have a place to sell some more stuff. But what happened was that the American maize was growing industrially. Big things with a lot of capital involved and stuff like that. And what happened is they really hurt the Mexican farmers who are growing this stuff. So sometimes what you can do maybe isn't what you should do, or maybe they figured it out to begin with and that was what was going to happen. It really hurt the Mexican farm culture. These people could not compete with the imported American corn, which is their essential to make tacos and all that stuff. That's their essential.
Je peux citer un autre exemple qui est proprement effrayant et que les économistes connaissent bien. Enfin, ça a été la production massive de poulet en France en particulier, nourri avec du poisson, on avait du poulet qui sentait un peu le poisson, et qui a été expédié à des prix très bas, en Afrique en particulier, ce qui a ruiné l'agriculture africaine et conduit à l'agglomération, enfin la constitution d'agglomérations énormes. Les paysans ruinés quittaient les campagnes, ils quittent d'ailleurs toujours les campagnes, et se sont installés autour des villes en espérant d'y trouver soit des secours, soit du travail. Alors ça, cette histoire du poulet européen et en particulier français exporté, d'ailleurs dans les pays de l'Est, quand encore à l'époque communiste, j'ai mangé en Roumanie et dans d'autres pays de l'Est du poulet français qui se reconnaissait aisément à son goût.
Alors sur cette vision effectivement assez effrayante, je suis tenté de donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Non.
I would like to just bring up Harry Harrison, make room, Soylent Green, okay? And I think Bill Dick referred to it as human kibble. But there will be some type of basic protein that will keep the human race alive. But it is a matter of class, because the rich will survive and the others will probably not, unless we can bring them up. And I think of a brain transplant into a biotic body.
I think the rich will get the classy food, but the poor will eat chickens. That's what actually happened in the United States with chicken. Chicken, I don't know, the 1900s like that, were not the basic meat that people ate in America. And then they figured out how to make industrialized chicken. I don't know if you've seen how, you know, that's why American chicken isn't allowed in Europe. They use all kinds of stuff. They use antibiotics. They use various. I mean, these chickens are really lousy chickens too. They're almost not animals. The next step is just to have chickens without heads. And they just found a chicken that lasted for like 100 days without a head. And then it becomes a congressperson or something like that. But it becomes the easiest thing to make cheap. And then you have McNuggets and stuff like that. But the stuff is full of bad stuff, which is why the European Union won't let in American chicken. And they do something about boiling it in chlorine. I don't know what that is. But another reason.
Non, la raison pour laquelle l'Europe limite ou n'autorise pas l'importation de poulet américain, c'est l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, des OGM. En ce qui concerne les antibiotiques, hélas, ils sont utilisés en Europe, en particulier en France, en particulier pour les poulets, enfin, mais également pour les bovins, à des doses absolument astronomiques, ce qui a des effets terrifiants sur l'inefficacité progressive des antibiotiques à usage médical. Enfin, c'est pas parce que les Américains donnent des antibiotiques à leurs poulets, ça favorise la croissance, ça permet d'obtenir plus vite plus de poids, qu'ils sont interdits. C'est à cause de la consommation d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés, ce que pour l'instant l'Europe ne tolère pas. Est-ce qu'elle sera bien obligée tôt ou tard, je l'espère, en le surveillant de près, les conséquences, qu'elle sera obligée tôt ou tard d'accepter.
Une autre question ? Apparemment, on n'a pas réussi à vous faire peur avec ces questions d'alimentation encore.
Oui, non, mais je suis surpris, c'est qu'il n'y ait pas de questions concernant les modifications génétiques et la différenciation génétique possible de l'espèce humaine, ce qui est quand même un très réel et très véritable problème. Nous créons des espèces animales destinées à nous servir et à nous nourrir, qui sont pas complètement artificielles, la base est naturelle, mais enfin qui sont profondément modifiées. Si des modifications semblables, qui pour l'instant sont interdites, apparaissent, sauf cas très particuliers, comme je l'ai dit, le traitement de certaines maladies, Si ces modifications, et ça me paraît absolument inévitable, apparaissent, qu'est-ce qui va se passer ? Ça me semble être la véritable question qui n'est pas abordée par les économistes et très peu, ou de façon très problématique, par les prospectivistes.
Tu nous expliquais tout à l'heure que la machine à explorer le temps de Wells essentiellement nous décrivait non pas le futur lointain comme il prétend le faire, mais la société, le rapport entre les classes à la fin du 19e siècle. Est-ce que pour toi la science-fiction d'aujourd'hui nous parle aussi du temps présent, ou est-ce qu'on a des textes qui essayent effectivement d'anticiper un futur, même un futur moyen, où on aurait reconstruit le corps humain?
Oui, je pense qu'il y a pas mal de textes, il ne m'en vient pas spécifiquement à l'esprit, mais qui prennent en considération les modifications profondes de l'espèce humaine. Alors là, je voudrais introduire, Wells ne considère que cette modification ne peut se produire que sur le très long temps, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Et ce qui est très intéressant dans la science-fiction, c'est que, par exemple, un auteur que j'apprécie beaucoup et que j'ai publié, qui est un ami personnel, Frank Herbert, n'imaginait aussi ce genre de modification que sur le très long temps. Dans l'intervalle, sont apparues les techniques de modification génétique, ce qui change complètement la donne. Ce ne sont plus des évolutions, en quelque sorte, naturelles, enfin darwiniennes, c'est la possibilité d'évolution contrôlée sur un temps très court. Et ça change complètement, complètement la donne. Donc, dans la science-fiction elle-même, on voit bien le passage d'un temps très long pour obtenir des modifications à un temps très court, enfin de l'ordre de quelques décennies et peut-être moins, parce qu'elles sont provoquées. Mais je suis surpris qu'il n'y ait pas de questions.
Bonjour. Donc justement, je voudrais aller un peu dans ce sens-là. Alors, ma question va être un peu provocatrice, mais la création de l'économie au départ, c'est pour faciliter les échanges, parce que l'homme doit lutter contre un environnement contre lequel il va avoir du mal. Mais à partir de maintenant, aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse qui se passe. Est-ce que justement les transformations physiques qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est pas pour l'économie qu'il demande ? C'est-à-dire les rapports seraient justement inversés pour être plus performant, pour être plus efficace. Est-ce que du coup, il n'y a pas une sorte d'inversion de rapport de force ? Peut-être parce qu'il manquerait une utopie aujourd'hui qui donnerait un cap vers où aller ou... Je ne sais pas si je suis très clair.
Non, je n'ai pas très, très bien compris la question, si vous pouvez la reformuler.
Parce que les transformations que vous dites, justement, qui ont lieu aujourd'hui, qu'on fait parce qu'on peut le faire, qui est quelque chose qui ressort souvent aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment des choses que l'homme souhaite ? Ou est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on insiste un corps économique dans lequel on serait les petites molécules ou les petites cellules, on aurait des modifications physiques qu'on souhaiterait, mais qui nous seraient en fait imposées par ce corps économique qui nous demande d'être plus performant, de vivre pourquoi pas plus longtemps parce qu'on veut participer plus à ce corps-là ou...
Allez, en ce qui concerne par exemple l'allongement de la vie, je ne crois pas que ce soit le corps économique qui le demande. On voit bien à l'heure actuelle, en particulier en France avec la discussion autour de l'évolution du système de retraite, qu'il y a une contradiction fondamentale entre l'allongement naturel de la vie qui a été considérable et l'âge de la retraite. Quand j'étais jeune économiste, la plus grande partie des ouvriers, ou enfin des classes inférieures, mouraient dans l'année qui suivait leur prise de retraite, ce qui ne posait pas de véritable problème au financement des systèmes de retraite. Aujourd'hui, l'écart entre l'âge de prise de retraite, qui doit être légalement de 62 ans en France, et la mortalité qui est de 82 ans est de 20 ans. Si bien que le financement des systèmes de retraite, sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, n'est pas assuré, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il faudrait allonger la durée du travail, peut-être en l'aménageant, mais ça c'est un autre problème. Mais il faut allonger la durée du travail, a fortiori si on se met à vivre 120 ou 130 ans, comme je l'espère, en bonne santé, pourquoi pas très au-delà, il est évident qu'il faudra beaucoup allonger la durée du travail pour que le système trouve un équilibre quelque part. Enfin, ce n'est pas l'économie qui pousse, à mon avis, à ces modifications génomiques éventuelles. C'est le désir des humains et c'est le désir de certains humains. Et les obstacles religieux et politiques qui sont à l'heure actuelle opposés à ces modifications, à mon avis, sauteront un jour ou l'autre. Quelqu'un a dit tout ce qu'on peut faire, on finira par le faire. Ce n'est pas toujours vrai, heureusement, mais c'est souvent vrai.
Une autre question ?
there is the possibility that we can be genetically modified so that we become Aeritarians and we get our nourishment from the air. But given the environment that we're living in, that will be terminal. The other thing is that we might be genetically changed to eat energy. But given the lack of energy that will exist in the future, neither are quite viable. Just a thought. Aeritarians and electronic.
Bon, moi, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier nos panélistes et vous remercier tous de votre participation à cette table ronde. Merci à tous.